Mais d'abord, Luc est là. Bonjour, Luc.
Salut, Bernard.
Alors, parle-nous un petit peu du grenouillage qui a commencé contre le chef conservateur O'Toole.
Ben oui, ça a commencé d'abord, si vous lisez dans la presse ce matin, il y a un député sous le couvert de l'anonymat qui dit non, il n'est pas question qu'il reste là. C'est un député albertain. Il a rompu les engagements du parti. Et là, ça prend une autre tournure, là, parce qu'il y a un membre de l'exécutif national du parti qui a lancé une pétition pour réclamer un référendum sur le leadership du chef Aaron O'Toole.
Bon.
C'est un jeune homme qui s'appelle Bert Chen. Ben, je ne sais même pas s'il est jeune. Je l'appelle jeune.
OK.
Il veut mettre en branle, parce que de la façon dont ça fonctionne, on pourrait attendre proche de 2 ans avant qu'il y ait un vote du parti.
Oui, mais attention, du parti, hein, mais le caucus des députés conservateurs, eux vont dans les prochaines semaines se prononcer sur le leadership de O'Toole.
Oui, oui. Alors, ça risque de déraper parce que, tu comprends, on reparle de ce gars-là, Bert Chen. Il reproche à O'Toole d'avoir trahi les principes fondateurs du parti, d'avoir brisé la confiance des membres du parti et déplore que la campagne d'Aaron O'Toole aux élections fédérales a échoué à faire élire suffisamment de députés conservateurs pour former un gouvernement. Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que O'Toole, qui était pas exactement l'homme le plus connu du caucus, c'était un député de l'Ontario, il s'est lancé dans ça, puis il a fait de l'œil aux évangélistes de droite, puis aux gens qui sont pro-vie, puis tout ça, pour obtenir assez de votes, pour gagner le leadership. Et là, il se présente en campagne électorale et il annonce de son propre chef, avant même d'avoir parlé à son caucus, d'avoir discuté de ça à l'exécutif national, il fait des annonces dans le genre, dans le cas des armes à feu, je me souviens plus, là, mais c'était une version édulcorée. Bon, dans le cas, comprends-tu, de différents dossiers où il essayait de recentrer le parti, le dossier des armes à feu.
Ben, le dossier du climat aussi.
Le dossier du climat, effectivement. Mm-hmm. Alors, ce sont des espèces de dogmes qui viennent de l'Ouest canadien. C'est très intéressant, d'ailleurs, Bernard, t'as dû t'y intéresser un jour. Il y a toute une école politique qui se développe dans l'Ouest canadien, qui vivent sur une autre planète que nous, mais je veux dire, à l'Université de Calgary, il y a une école de sciences politiques où beaucoup, beaucoup des idées qui ont permis à Harper d'avoir le pouvoir pendant 9 ans émergent. C'est en Alberta, ce sont des dogmes. Tu touches pas aux armes à feu, là, parce que nous autres, tu sais, faut aussi comprendre culturellement de quoi il s'agit. C'est pas que les gens veulent se promener avec un gun pour tirer du monde, là. C'est parce que là-bas, ils ont grandi. On parle d'avant le grand boom pétrolier, dans une atmosphère de très, très grands ranchs où on élevait des milliers de têtes de bétail et qu'on les cowboys qui les... Ça existe, c'est pas juste dans les films, là, ça existe.
Il fallait les protéger contre les prédateurs. Bon,
les prédateurs, alors, mais aussi le poste de police le plus proche de leur maison était souvent à 12 kilomètres.
Mais c'est une mentalité un petit peu américaine que tu
décris. C'est une mentalité de cowboy. Hein? Si on veut, d'ailleurs, quand on regarde la carte de l'Amérique, Bernard, prends l'Alberta puis descends tout le long. Là. Tu vas arriver au Texas. C'est cette espèce de groupe qui se trouve dans ce corridor à côté des Rocheuses.
Ouais.
À quelque part, comment on l'appelle? C'est la vallée de l'Okanagan, qu'on l'appelle en Colombie-Britannique. Mais au milieu de cette vallée-là, t'as un côté, t'as les vrais, de vrais dogmatiques conservateurs. Et M. O'Toole les a littéralement fait enrager. Par exemple, Jenny Byrne, ça a été une très, très proche collaboratrice, une des plus proches de Stephen Harper. Je la connais, elle est sympathique, mais tu veux pas te prendre avec elle, là, parce qu'elle c'est une tough. Et puis, elle est d'avis que O'Toole, il faut qu'il fasse de l'air.
Puis, toi, tu penses qu'il vit sur du temps emprunté? Penses-tu qu'ils vont réussir à avoir sa peau?
Absolument. Moi, j'en suis convaincu.
Ah oui?
La question est de savoir combien de temps. Tu comprends, dans le cas de Scheer, il y avait un coup de poignard solide qui était arrivé dans le dos, là, où on révélait qu'il y avait un contrat avec le parti qui permettait de payer les collèges privés de ses enfants, là,
oui.
Chose qui n'était pas connue des membres. Alors, ça a servi de prétexte pour le faire sauter. Mais connaissant cette gang-là, il doit avoir quelqu'un qui a un autre poignard qui est prêt. Parce
ouais, mais là, il condamne le Parti conservateur à rester dans l'opposition. Luc, tant et aussi longtemps que cette gang-là va faire la pluie et le beau temps et n'acceptera pas que pour que le Parti conservateur retourne au pouvoir, il va falloir que ce soit un parti du centre, que ce soit un parti modéré.
Au Canada, on ne gouverne qu'au centre.
Ben...
Même Harper est obligé de l'accepter parce qu'on pense qu'il était à l'extrême droite. C'est pas vrai. Pendant la crise économique de 2008-2009, il a fait monter le déficit jusqu'à 166-167 milliards pour aider à l'économie canadienne. Donc, il va falloir trouver une façon que ces deux morceaux-là se joignent ensemble pour longtemps et qu'ils trouvent un chef qui va plaire à tout le monde. Et puisque ça ne m'apparaît pas probable, on va continuer d'avoir des gouvernements libéraux appuyés par le NPD. C'est pas bien compliqué.
Là, j'ai des gens qui m'écrivent et disent « Bernard, c'est Charest qui s'en vient. » OK, puis j'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit la même affaire. Il y a des rumeurs sur Charest à la chefferie du Parti conservateur.
Ben, je dois te dire que j'ai parlé à Jean Charest cette semaine, mais c'était pas du tout de ça dont il était. Il s'agissait d'une histoire familiale.
Avant ou après l'élection que tu as parlé?
Juste avant. Moi, okay. Je dirais que j'ai dû y parler dimanche ou samedi, okay. Quelque chose comme ça.
Ouais.
Puis j'ai fait la blague habituelle, 4 more years, comme ils disent aux États-Unis. Et Jean m'a donné aucun signe qu'il se préparait à un retour. Maintenant, ça, peut-être que c'est le cas, là. Peut-être qu'il joue ça discret, mais ça me surprendrait parce que là, il faut se mettre une affaire dans la tête, là. Le Parti conservateur, quand il s'est fusionné avec le Reform, qui était son ancienne aile albertaine, ce sont les Westerners, ce sont les gens de l'Ouest qui ont pris le contrôle du parti. C'était la première fois, dans leur perception, que l'Alberta, que l'Ouest canadien, possédait littéralement une institution pan-canadienne. Dans ce cas-là, c'est le Parti conservateur. Et là, tant qu'ils seront pas capables de trouver un chef qui va incarner les deux morceaux, oublie pas que M.
Les deux morceaux étant...
L'Ouest puis le reste.
L'Ouest et le reste, OK. Ouais.
L'Ouest et le reste, évidemment. Mm. T'as un Pierre Poilievre, qui est un député de la région d'Ottawa,
ouais.
Mais c'est un gars de l'Ouest, là. Puis ça, c'est un de leurs favoris. Certains disent c'est lui qui va y aller. En fait, j'avais été surpris quand il s'était présenté à quel point il avait fait une très bonne semaine au début, puis tout à coup, le gars nous aimait un communiqué. Je viens de réaliser que j'ai une famille. Enfin, c'est pas écrit comme ça, mais c'était « Je viens de réaliser le jeune enfant ». Et tout le monde a dit en coulisses, puis j'irai pas dans les détails, mais je l'ai entendu abondamment par des gens bien branchés, il y avait peut-être une autre raison. Mm-hmm. Quelle autre, on le sait pas. Mais qu'un gars se retire alors que ça allait bien sa campagne et qu'il y avait toute cette machine-là, parce qu'il faut regarder le groupe Carper avait formé, c'était vraiment une machine. C'était comme une brigade militaire. Là. Quand il arrivait, le contrôle des médias sociaux, des messages, il était fort. Là. C'était fort. Là.
Mais il y a des conservateurs qui disent Harper a gouverné au centre et a fait avaler des couleuvres justement à cette frange, plus à droite, plus
oui, bon, c'est vrai, ça.
Bon, mais... Ils ont accepté des avalés couleuvres parce que le gars, justement, il venait de l'Alberta, il venait de l'Ouest, c'était l'un d'eux. Donc, il lui faisait confiance, il se disait, on le sait que dans le fond, il pense comme nous, mais Steven, qu'est-ce que tu veux, il fait des compromis, bon, puis on accepte ça parce que dans le fond, on le sait qu'il est comme nous.
Il y avait une autre raison, Bernard, qui est moins poétique, là. C'est que Harper est un leader extrêmement autoritaire. Alors, il a réussi, avec la baguette, puis les ordres, puis tout ce que tu veux,
à les faire rentrer.
Puis s'il était pas content, il leur empoisonnait la vie.
Ouais.
Je veux dire, ça, c'est un type de leader. Ce que les conservateurs pourraient rêver de trouver, et là, le nom de Jean Charest vient à la surface entre toi et moi, il m'a rien dit de ce sens-là, Jean. Quand ça va lever, ça prendra un leader charismatique capable d'unir les deux morceaux.
Mais est-ce que Charest pourrait être ce leader, oui ou non?
Je ne pense pas. Je pense pas qu'il est un bon politicien, tout ça, mais cette gang de l'Ouest, ils veulent pas laisser aller le morceau, puis Jean Charest, c'est un gars du Québec. Pour eux autres, là, ça changera pas, là.
Maintenant, c'est un ancien progressiste conservateur, puis ça...
Il vient de cette école-là.
Ils les aiment pas. Cette gang-là, là, dont tu parles, la gang de l'Ouest, la gang des réformes, là, ils aiment pas les progressistes conservateurs,
puis,
eux autres.
Puis moi, je pense qu'il va falloir... Enfin, on va avoir des libéraux pendant encore un bout de temps. Mais à un moment donné, il va émerger un leader. Je sais pas lequel, là, j'imagine. Mais s'il en émerge pas, je veux dire une affaire, ils sont dans l'opposition pour une cinquantaine d'années.
Là. Bon.
J'exagère, mais à peine.
OK. Parle-nous un petit peu de vaccination dans les pays pauvres.
Ben, les États-Unis, ils ont décidé de porter à 1,1 milliard le nombre de doses promises à des pays pauvres.
Mm-hmm.
Et je te cite les propos de M. le Président Biden. J'ai fait la promesse et je la tiens que l'Amérique sera l'arsenal de vaccins du monde, tout comme elle a été l'arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Et c'est amusant, c'est intéressant de constater que les Chinois se sont lancés dans ce type de ce qu'on a appelé de diplomatie vaccinale il y a déjà longtemps. Les Chinois en donnent beaucoup. Ce sont des vaccins qu'on ne connaît pas ici, mais qui ont été homologués là-bas. Je ne sais pas s'ils sont très, très bons, mais la Chine les distribue allègrement partout où ils savent qu'ils pourraient avoir un allié potentiel qui attend. Alors, les Américains ont décidé qu'il fallait procéder maintenant. Et ils ont raison. On le dit souvent, mais on le répète, Bernard.
Okay.
Mettons qu'on est tous vaccinés en Amérique du Nord, là, puis on est sur notre îlot, là, mais ils sont pas vaccinés, disons, en Afrique et dans certains coins de l'Asie.
Puis ils vont produire. Ouais, puis il y a des variants qui vont finir par émerger de ces endroits-là où il n'y a pas de.
Des mutants nos vaccins sont pas capables d'arrêter.
Puis bon,
quand on regarde ça, c'est une belle générosité de la part des États-Unis, mais il y a un intérêt pour le monde entier qu'on fasse ça.
D'accord.
J'espère qu'on va le faire au Canada. On le fait un peu, là, mais il faudrait en faire beaucoup plus.
Bon, parle-nous rapidement de la colère de Trump. La colère de Trump.
Imagine-toi, il vient de déposer une poursuite civile, une plainte aux criminels contre sa nièce Mary Trump et le New York Times, les accusant d'un complot sournois pour obtenir ses documents fiscaux et publier en 2018 une enquête qui leur avait valu un prix Pulitzer. Alors, il estime que ça lui a créé 100 millions de dollars de dommages, ce que le New York Times avait réussi à révéler, qui était finalement pas si explosif.
Qu'est-ce qu'il avait révélé, justement, dans cet article-là?
Ah, ben, ça nous laissait... C'est parce qu'il avait mis la main sur un document qui était parcellaire, et tu pouvais faire des extrapolations pour dire, voici d'où vient sa fortune, voici combien, voici... Et ils ont spéculé là-dessus dans le New York Times. Mais la vérité, Bernard, c'est que cet homme-là, M. Trump, pour ses fans, c'est un gars qui prétendait ouvertement d'avoir une compagnie qui valait 10 milliards de dollars. Moi, on m'a dit, dans des milieux plutôt bien informés, que ça avait aucun sens, que sa fortune était inférieure à 1 milliard et peut-être même beaucoup plus bas.
Parce que
ce ne sont que des dettes.
C'est un empire grevé de dettes. Hein, c'est ça.
Ben, oui, puis les dettes sont dues à qui? Des banques russes qui sont installées à Chypre. Ça te donne-tu une idée de comment ils fonctionnaient? Alors là, il poursuit sa nièce, celle qui a écrit un livre là, qui s'appelait... c'était quoi le titre de ce livre-là déjà? Là? Enfin, c'était...
Too much and never enough.
Ouais, c'est ça. Hein? Too much and never enough.
How my family created the world's most dangerous man. Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux au monde en parlant du Donald.
Et elle a publié ce livre-là, puis elle a été vue sur les réseaux de télévision partout.
Mary Trump.
Puis elle était bien sérieuse que son oncle, qu'elle connaissait évidemment, était un gars qui était mentalement pas très bien équilibré. Alors là, il est poursuivi. Bon. Il ne sait plus quoi faire de son temps. Il est poursuivi.
Bon, mais écoute. On verra ce qui arrivera. Notre Donald. On ne sait pas trop.
S'ennuie parce qu'on avait du divertissement.
Moi, je ne m'ennuie pas.
Non, moi non plus, pour dire le vrai.
Tant que je vais t'avoir, je vais être correct.
Ah, ça me fait plaisir, Bernard. Ça me fait chaud au cœur.
T'es mon petit Donald. Bon, on se reparle un peu plus tard, mon Luc.